Le thème de recherche qui m'intéresse actuellement porte sur les relations ville-agriculture, donc les questions de l'agriculture urbaine et de l'agriculture périurbaine. Et l'exposé que je vous présente a été construit avec Colline Perrin, qui est chercheur géographe également dans mon équipe. Et donc le titre, il est une question sur le renouvellement des recherches sur ce thème de l'agriculture urbaine et périurbaine, en lien avec un enjeu qui est la question de l'alimentation du monde, qui remue beaucoup en ce moment nos institutions de recherche dans le domaine agricole, avec des évolutions de contexte qui interpellent nos recherches et qui les renouvellent. Donc c'est un peu ça le thème de mon exposé. Mais en filigrane de tout cela, ce qui nous intéresse, on est à l'INRA, donc l'INRA c'est l'Institut national de la recherche agronomique, c'est d'interroger le fait agricole, comment évolue la place de l'agriculture dans nos sociétés. Donc la sécurité alimentaire mondiale est un thème qui a occupé beaucoup des réflexions prospectives récentes auxquelles je vais faire référence. Donc un sujet qui est à l'agenda de nos institutions de recherche, en particulier à l'INRA et au CIRAD, avec des prospectives récentes comme la prospective Agrimonde, qui est parue en 2007, et la réflexion stratégique Dualine, alimentation durable, qui a été menée en 2011 et auquel j'ai participé sur la question des relations entre urbanisation, alimentation et agriculture. Et donc, cette réflexion générale sur les enjeux autour de la question alimentaire amène à réinterroger l'étude des relations ville-agriculture, étudiée par le prisme de l'agriculture urbaine et périurbaine. Pour préciser les termes, quand on parle d'agriculture périurbaine, on parle d'une agriculture périphérique à la ville, si tant est qu'on puisse fixer les limites de la ville, mais c'est l'idée de contiguïté. Quand on parle d'agriculture urbaine, c'est l'idée de lien, c'est-à-dire la double idée de lien, par exemple un lien fonctionnel entre une agriculture et la ville qui l'environne ou de laquelle elle est proche. Et de plus en plus, on utilise simplement le terme d'agriculture urbaine pour englober les deux. Voilà, donc c'est pour préciser ces termes. Donc on mène différents types de recherches sur l'agriculture urbaine et périurbaine, mais j'y reviendrai dans l'exposé, ça a été un peu évoqué tout à l'heure. Donc le sujet de l'exposé, c'est cette relation entre ce thème de recherche agriculture urbaine et périurbaine, bon, qu'est-ce qu'il recouvre, et la question alimentaire. Alors j'ai construit mon exposé autour, ce que je vous propose en fait, c'est une réflexion par rapport à la fois à des lectures, aux résultats des prospectives dont je vous ai parlé, et aux travaux de recherche que nous menons dans mon équipe. Donc je l'ai structuré autour de questions suivantes. La première, c'est l'agriculture urbaine peut-elle ou pourra-t-elle nourrir les villes? Alors c'est un peu provocant parce que par définition, les villes se sont construites en lien avec des agricultures autour et non pas dedans, mais il y a toujours eu de l'agriculture en ville ou en périphérie urbaine. Et la question se pose actuellement de la place de ces agricultures urbaines dans la question alimentaire. La deuxième question, c'est l'agriculture urbaine est-elle une agriculture alimentaire? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette agriculture urbaine et quelle est la place de la fonction alimentaire de cette agriculture? La troisième question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe comme connexion ou surtout comme reconnexion, comme on va le voir, entre l'agriculture, l'alimentation et la ville, et en particulier au niveau local? Et enfin, en conclusion, je proposerai plus une synthèse, en tout cas une réflexion, un retour sur le fait agricole réinterrogé. Donc les questions finalement qui nous intéressent par rapport aux transformations de l'agriculture dans les sociétés contemporaines. La première question, ça va être plutôt à partir des visions prospectives qui ressortent d'Agrimonde et Dualine. La deuxième question, l'agriculture est-elle une agriculture alimentaire? Ça va plutôt être une approche rétrospective de l'histoire de ces recherches dans ce domaine. Et les reconnexions au niveau local, c'est plutôt ce qui se passe actuellement, ce qu'on observe en ce moment. Donc l'agriculture urbaine peut-elle nourrir les villes? quelques indications sur les grandes tendances et les défis alimentaires au niveau global, au niveau mondial. Et une réflexion que je vous propose, c'est d'aborder cette question par la diversité des systèmes alimentaires. Alors, il y a une courbe qui fait florès en ce moment, c'est cette évolution de la population mondiale et surtout de la part de la population urbaine par rapport à la population rurale, les courbes s'étant croisées ces dernières années. Et donc, le phénomène de l'urbanisation généralisée vers lequel tend l'évolution de la planète. Ce phénomène étant d'autant plus accusé dans les pays du Sud qui avaient un taux d'urbanisation plus faible et qui a cru beaucoup plus vite que dans nos pays. Il y a toute une série de livres dont vous avez beaucoup vu autour et des livres sur l'évolution de cette question alimentaire au niveau mondial avec deux chiffres clés qui sont presque toujours apportés, c'est 2050, parce qu'il y a eu des prospectives à l'horizon 2050, et 9 milliards d'habitants en 2050. Et donc, je vous ai mis là quelques exemples sur qui va nourrir le monde, 9 milliards d'hommes à nourrir, etc. Alors, quelques éléments issus de la prospective d'Ualin sur alimentation, l'urbanisation et les défis alimentaires. Bon, premièrement, des éléments sur la déferlante urbaine. Alors ça, c'est peut-être un vocabulaire un peu INRA, un peu d'origine agricole, vision un peu peut-être extrémiste de ce phénomène d'urbanisation. Mais en tout cas, ce qui est très frappant, c'est le développement surtout des mégapoles et sa conséquence, le développement de l'accaparement des terres, hein, qui a quand même explosé depuis la crise mondiale alimentaire de 2008. Donc derrière des défis alimentaires très importants, la question de l'accès à l'alimentation qui est inégale, de l'insécurité alimentaire en termes de fluctuation des prix ou d'approvisionnement, la question de l'acculturation, homogénéisation des modes de consommation, de malnutrition en particulier parce que le modèle agro-industriel a tendance à prédominer avec des alimentations standards et des problèmes de malnutrition qui en découlent, en particulier les problèmes d'obésité et différents problèmes de santé. Et puis, les problèmes de coupure, en fait, entre monde rural, monde urbain, agriculture et alimentation. Par ailleurs, les analystes nous disent qu'il y a une grande diversité de systèmes alimentaires selon les ressources naturelles locales, les modèles de production, les cultures alimentaires. Donc ça, je vais y revenir. Mais quand même une tendance générale à la convergence des modes de consommation hein, qui se diffusent dans le monde entier et le fait que le modèle agro-industriel prédomine et continue à progresser. Alors, chez nous, il est ancien, on y est habitué. Mais par exemple, dans les pays du Sud, c'est un modèle qui est en forte progression, en particulier dans les pays émergents de l'Amérique du Sud, de l'Asie et de l'Afrique australe. Et donc, il continue à développer son hégémonie sur les autres modèles. Par rapport à cela, les prospectives explorent des scénarios généraux. Comme je l'ai dit, le scénario tendanciel, c'est ce modèle agro-industriel qui a tendance à progresser, à continuer à progresser les risques qu'il comporte, notamment par exemple il repose sur les énergies fossiles, il repose sur une certaine standardisation des productions de masse, etc. Et par rapport auxquels des scénarios de rupture sont envisagés, liés au fait par exemple que ce modèle peut entraîner des rejets de la part de la société, et que d'autres modèles alternatifs en rupture peuvent être proposés autour, par exemple, de l'agroécologie ou du développement à partir des territoires. Mais ce qui ressort le plus fortement, c'est l'idée que les scénarios qui vont évoluer sont plutôt des scénarios mixtes d'hybridation entre modèles multiples autour de l'idée des transitions hein, et des adaptations, des cohabitations entre les différents modèles. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un débat important entre les spécialistes, entre finalement cet enjeu alimentaire nourrir plus de monde relancerait l'enjeu de la production agricole. Donc, il faut produire plus. Hein, mais il faut produire différemment, d'où l'idée d'une intensification plus écologique. Qu'est-ce que c'est que l'idée de l'intensification plus écologique? C'est qu'au lieu d'intensifier par plus de techniques, on va intensifier par mobiliser des processus naturels pour activer la production. C'est ça l'idée de l'intensification écologique. Par exemple, on retire la technique du labour et on la remplace par du travail sans labour, mais avec des techniques de culture associées qui vont activer la vie du sol, et le sol va lui-même finalement faire la régénération sans la technique. Ce qu'on dit peu dans ces cas-là, c'est que le retrait du labour entraîne aussi l'augmentation des herbes. En tant que telle, c'est cette voie de l'intensification écologique, elle fait débat. Il y a différents scénarios techniques, agroécologiques. Mais il y a d'autres avis, en particulier d'économistes, qui disent que le problème n'est pas la production, mais c'est l'accès, le droit à l'alimentation qui fait défaut et qui crée des déséquilibres. Il y a assez de production, mais elle est mal répartie. Et une grande partie de la population n'y a pas accès. Donc il faut plutôt repenser la gouvernance alimentaire multiniveau, et en particulier celle des villes. Donc la diversité des systèmes alimentaires, donc qu'est-ce que j'entends par système alimentaire? C'est finalement réfléchir des cohérences entre des manières de produire, de transformer, de distribuer et de consommer des produits issus de l'agriculture agroalimentaire. Alors dans ces prospectives, ils nous disent qu'il y a, ils ont identifié 5 modèles différents. Le système agro-industriel, dont je vous ai déjà parlé, donc des aliments qui est performant pour produire des aliments pour des marchés de masse, donc des grandes quantités, à faible prix, avec une certaine sûreté alimentaire, donc une innocuité alimentaire, mais avec aussi des effets négatifs, en particulier les énergies fossiles, les effets sur l'environnement. Le système alimentaire domestique, c'est le système du jardin de la famille, ou plus largement systèmes de production principalement basés sur l'autosubsistance, avec éventuellement des ventes de surplus, mais le but premier, c'est l'autoproduction et l'autosubsistance. On retrouve ça, par exemple, dans les jardins familiaux partagés dans les villes. Un autre système, c'est le système vivrier territorial. Celui-ci, c'est le système classique, présent partout, avec l'agriculteur, l'expéditeur, le grossiste, le détaillant, pour les produits de base, les produits de céréales, les légumineuses, les fruits et légumes. Donc c'est des marchés à moyenne distance, régional, national, avec un principe organisateur qui est sécuriser l'approvisionnement. Un système alimentaire basé sur la proximité, hein, qui a toujours existé, les marchés de producteurs ont toujours existé, mais qui s'est redéveloppé ces dernières années, en particulier autour de critiques du modèle circuit long, avec le développement des circuits courts, qui ont, sur la base d'initiatives de producteurs, de consommateurs ou d'associants, les deux, en fait, revendiqué une reprise en main de la gouvernance de la production de l'aliment, par en faisant des chaînes courtes, c'est-à-dire en allant directement du producteur au consommateur. Et puis, un système qui s'est beaucoup développé, qui s'appelle la qualité différenciée, donc les démarches de qualification des produits, où là, le principe organisateur, il va être de se différencier pour garantir une qualité, avoir un certain prix, protéger un certain produit. Alors, il y a différentes formes de différenciation. La qualité supérieure, par exemple, les labels. La qualité d'origine, patrimoniale, les indications géographiques. La qualité naturelle, l'agriculture biologique, par exemple. Ou la qualité éthique, l'équité sociale avec le commerce équitable. Et donc, en fait, les analyses globales disent qu'aujourd'hui dans le monde, finalement, le système agro-industriel, c'est 40% de l'alimentation mondiale, et tous les autres, c'est 60%. Donc, il prédomine dans le système alimentaire mondial. Et ce qui est intéressant, c'est que l'analyse des plus et des moins de ces différents systèmes, simplifiés, hein, qui sont des modèles, finalement, conduit à dire que tous sont des plus et des moins, et que la durabilité, si on veut réfléchir à la durabilité de l'alimentation, eh bien c'est dans la combinaison, dans leur combinaison, leur coexistence. Et ça c'est intéressant parce que ça, je pense par rapport aux géographes, parce que ça veut dire que c'est aussi à des échelles territoriales qu'on peut réfléchir la durabilité en combinant des systèmes différents. Donc, par exemple, des territoires urbains, des territoires régionaux, mais ça peut être des territoires monolocalisés ou aussi multilocalisés. Ce sera le cas le plus souvent. Alors, l'agriculture urbaine peut-elle nourrir le monde? Bon, je vous ai mis une estimation de la FAO qui est assez ancienne, mais je ne pense pas qu'elle ait été réactualisée, qui, à la fin des années 90, indiquait que l'agriculture urbaine représentait 15% de l'alimentation produite. C'est sans doute global, c'est sans doute plus ou moins juste. Simplement, ça veut dire que c'est une petite part de l'alimentation. Ce qui est important aussi, alors, c'est que ce sujet de l'agriculture urbaine, il est quand même controversé. Par exemple, développer la production agricole en ville, est-ce bon ou pas? Il y a des problèmes de pollution. Soit cette agriculture pollue, soit elle est victime elle-même de la pollution urbaine, atmosphérique ou des sols, et du coup, il y a quand même une contradiction. Il y a aussi une difficulté de place pour développer l'activité agricole, mais il y a aussi des expériences qui montrent que c'est possible avec, par exemple, le développement des jardins associant les habitants, vous avez une photo ici, ou des idées beaucoup plus utopiques, mais qui commencent à se mettre en place, de créer carrément des fermes intensives, des fermes verticales, des immeubles agricoles, pour produire de manière complètement hors sol des produits alimentaires, avec des cultures hydroponiques, des systèmes de récupération d'énergie, etc. Donc, il y a un premier sujet, ce qui veut dire aussi que l'agriculture urbaine, ça peut être du très intensif ou au contraire du très domestique. Une deuxième question importante, c'est finalement, faut-il conserver des espaces ouverts pour l'agriculture au sein des villes? Non. Certains disent non, parce que finalement, il faut d'abord densifier plutôt qu'étaler la ville. Et puis, il y a quand même une demande sociale première qui est se loger, loger les gens. Donc, conserver des espaces pour l'agriculture dans la ville, c'est faire une priorité entre loger ou cultiver. Mais en même temps, certains revendiquent le fait que oui, il faut donner de l'air. Et finalement, l'agriculture dans la ville, c'est aussi des emplois. Voilà, ça c'était le premier point. Donc finalement, l'agriculture peut-elle nourrir les villes? Elle fait partie de la problématique. Elle est bien sûr pas essentielle dans l'ensemble de la question alimentaire. Et elle est controversée. Maintenant, justement, l'agriculture urbaine est-elle une agriculture alimentaire? Alors, je vais vous faire une brève généalogie des recherches sur ce thème dans le monde, parce qu'il faut comprendre pourquoi on s'est intéressé à l'agriculture urbaine et périurbaine. On va voir en plus que cette agriculture, ce sont des agricultures au visage multiple, avec derrière une forte évolution de l'importance accordée à ce phénomène actuellement partout dans le monde. On a fait un petit travail dans le projet DOME, là, que vous avez cité sur la durabilité des agricultures urbaines, petite revue biblio, à partir de mots-clés agriculture, urbaine et durabilité. Et donc, on a regardé les bases de données internationales, et vous voyez, on a identifié 534 références, et vous voyez les références, la distribution des références selon les années. On voit que ça explose à partir des années 2003-2005. Donc un sujet finalement récent, qui explose récemment dans les travaux de recherche. Malgré tout, c'est une petite communauté de recherche à l'échelle mondiale. C'est très petit. Et surtout, en fait, on constate une grande disparité des recherches, c'est-à-dire c'est une multiplicité d'études de cas, l'agriculture à Toronto, le cas de Belo Horizonte au Brésil, etc. Et alors, beaucoup de débats sur la définition, la promotion de l'agriculture urbaine. C'est-à-dire qu'il y a aussi une production de recherche très liée au développement, très liée à la demande, avec des gens qui promeuvent, en fait, cette agriculture. Alors, pour préciser l'origine de ces préoccupations, il y en a trois, bon, pour... Là encore, pour présenter les grandes lignes. Cette préoccupation est née dans les pays, s'est développée dans les pays du Sud à partir des années 80, en particulier Afrique, Amérique du Sud et Asie du Sud-Est, avec un point de départ, en fait, qui est la question de l'aide alimentaire. Dans les pays en guerre, où l'UNICEF s'est rendu compte que dans des villes de pays en conflit, finalement, pour survivre, les gens s'étaient mis à faire de l'agriculture pour tout simplement se nourrir. D'où l'idée de dire, plutôt que de faire une politique d'aide alimentaire, développons, aidons les gens à produire eux-mêmes pour survivre et passer les périodes difficiles. Et de là sont nés des programmes des Nations Unies qui ont mobilisé des centres de recherche internationaux comme le CIRAD en France ou le CRDI au Canada et les centres de recherche agronomique avec le programme Urban Harvest sur finalement aider les urbains pauvres à faire de l'agriculture pour améliorer leurs conditions de vie. Voilà. Et donc, se sont structurés tout un tas d'activités très, très recherche et développement. En fait, une recherche qui était vraiment pour permettre qu'économiquement, techniquement, des populations puissent faire cette agriculture. Il y a une deuxième origine qui est plutôt assez marquée Amérique du Nord, USA et Canada, mais également Europe, qui vient là aussi des crises urbaines, fin 19e, début 20e, où finalement, pour faire face aux situations de crise, eh bien, les gens ont développé des jardins. C'est le mouvement des jardins communautaires. Au Canada, ça s'appelait les jardins de guerre. Voilà. Se sont développés les community gardens, déjà au début du XXe siècle. Et en fait, ce mouvement, aux USA et au Canada, il va se redévelopper et prendre une nouvelle ampleur à partir des années 70 comme mouvement politique critique par rapport aux aberrations de l'urbanisation, au fait qu'il y a des populations exclues, qu'il y a des espaces qui sont en friche et qui donc vont se battre pour reconquérir des espaces, faire de l'agriculture et améliorer leur situation, et donc autour des questions de l'injustice spatiale dans les villes. Et donc là, les recherches dans ce domaine sont plutôt des recherches de sociologie, de sciences sociales, mais aussi d'architecture par rapport à concevoir des systèmes d'agriculture intra-urbaine permettant finalement un mieux vivre en ville. Et il y a une troisième racine qui est plutôt européenne, et notamment en France, qui est que finalement, c'est la question de l'aménagement. C'est-à-dire que là, c'est l'agriculture périurbaine qui, à l'époque des grands aménagements de l'après-guerre, années 50-60, les villes nouvelles, les ports, les zones littorales, finalement, il y a des expropriations d'agriculteurs importantes et donc un conflit entre État et profession et des négociations pour relocaliser des agriculteurs avec la SAFER, créer des lotissements. Donc en région parisienne, ça s'appelle les lotissements SAFER, où on a relocalisé des horticulteurs, par exemple. Et donc qui vont évoluer vers les préoccupations d'aménagement durable. Et en fait, en France, les recherches dans ce domaine, elles sont très, très liées à cette entrée aménagement, plutôt, par exemple, qu'à l'entrée alimentation. Et là, on trouve plutôt des chercheurs en géographie ou en agroéconomie. Et ce qui est intéressant, c'est que ces trois familles de travaux, on peut dire qu'il y a trois histoires. Il y a une histoire du développement, des politiques de développement. Il y a une histoire des mouvements sociaux dans les villes autour des questions de justice spatiale. Et il y a une histoire de l'aménagement et des relations agriculture-aménagement. Et aujourd'hui, finalement, la problématique, elle se croise un peu partout, aussi bien dans les pays du Sud que dans les pays du Nord. Et de plus en plus, ce qu'on voit aujourd'hui dans les travaux plus récents, c'est des recherches plutôt sur, finalement, comment articuler cet ensemble autour de l'idée, donc les travaux anglo-saxons se sont beaucoup plus développés, en France ça existe encore assez peu, sur l'aménagement durable à partir de l'entrée alimentaire. En France, on le pense plutôt à partir de l'entrée production. Et la notion d'urban food chain, donc de bassin alimentaire des villes, à réfléchir par rapport à leur durabilité. Donc en fait, quelque part, le développement durable invite à croiser ces regards multiples, ces visages multiples de l'agriculture urbaine. En France, pour résumer, je vous ai dit, ça a été plutôt une entrée sur l'aménagement. À partir des grands projets d'aménagement, villes, ports et stations touristiques, c'est très facile. Serge Bonnefoy a fait un bon article dans la revue Urbia en 2011, où il dresse cette histoire. où il montre en fait que les premières actions, c'est vraiment autour de Paris, Lille, Marseille, Lyon, où autour des grands projets, ben, se mettent en place des projets agricoles, et c'est d'ailleurs un peu les ingénieurs de l'État qui imaginent des solutions d'aménagement. Et puis, suite à cela, la périurbanisation se développe et des expériences pionnières, en fait, vont créer une existence, une visibilité à ce problème de l'agriculture périurbaine. C'est en particulier l'Y grenoblois, des initiatives en région Île-de-France ou à Aubagne. Et de ces initiatives va naître le réseau Terres en Ville, qui structure des collectivités, des acteurs de la profession agricole au niveau national. Et puis, dans les années 90-2000, les recherches sur l'agriculture périurbaine se développent autour du nouveau paradigme de la multifonctionnalité. Finalement, cette agriculture, elle a sa place par rapport à des fonctions autres que la production, notamment l'environnement, les paysages, etc. La notion de projet agri-urbain apparaît dans les initiatives, mais aussi dans les réglementations nouvelles, comme les PAEN, je pense que c'est la loi rurale de 2005. Et puis les circuits courts émergent, plutôt par la base. Voilà. Et actuellement, dans les années 2010, ça évolue plus vers l'agriculture urbaine. Donc la question, non seulement... Le passage de l'agriculture périurbaine à l'agriculture urbaine, c'est vraiment que la question du développement urbain est intégrée à l'analyse du fait agricole. La question alimentaire mondiale, la gouvernance alimentaire des villes et des régions. Donc voilà la situation actuelle. Alors finalement, cette agriculture urbaine, quel est son rôle alimentaire? On voit qu'il a été premier dans les pays du Sud, en particulier en période de crise. Il est la composante d'un mouvement social urbain en Amérique du Nord, et d'ailleurs qui maintenant en Europe se diffuse pas mal. Il y a le mouvement des Comestible Incredible là en Angleterre. Enfin voilà, donc on a... c'est les bombes à graines, en fait. Le mouvement initial aux États-Unis, c'est les bombes à graines. C'est les gens qui balancent des graines dans les zones non utilisées pour faire pousser des plantes. J'ai appris que même à Montpellier, il y avait une association qui se chargeait de cela. Donc j'imagine que dans toutes les villes, il y en a. Et finalement, le rôle alimentaire, je pense qu'il est en train d'être redécouvert en Europe, et en particulier en France. Mais la question monte en puissance partout. Par contre, ce qui est intéressant dans l'idée l'agriculture urbaine, nourrir les villes, c'est nourrir au sens large. Ce n'est pas que du point de vue de l'alimentation. Et les fonctions qui sont en débat, hein, il n'y a pas que du plus, il y a aussi du moins, mais il y a la production, mais il y a aussi la question de économiser des énergies en produisant sur place, gérer les déchets urbains, en particulier les produits résiduaires urbains, organiques, recyclés donc, la biodiversité que peut amener plus d'agriculture, le contrôle du microclimat par des végétations qui peuvent adoucir le climat localement, verdir la ville, économie et action collective parce que ça peut procurer des emplois et des initiatives pour des communautés, le côté éducatif, les liens sociaux que peuvent permettre des actions collectives en ville, la santé humaine par des produits de meilleure qualité ou par de la production médicinale aussi. Les cultures alimentaires en réintroduisant une diversité d'aliments. Donc, ce qui est intéressant dans la signification de cette agriculture, c'est potentiellement ces fonctions multiples qu'elle peut remplir. Donc aujourd'hui, concrètement, assiste-t-on à une reconnexion des liens ville-agriculture-alimentation? Là, je voudrais vous donner des exemples concrets de recherches en cours ou de premières recherches qui sont faites dans mon équipe. Et je vais prendre des exemples, évidemment, en Languedoc-Roussillon. À partir, un, des circuits courts, deux, l'agriculture au sein même de la ville, et trois, finalement, les initiatives qui connectent agriculture et alimentation, avec le cas de Perpignan. Les circuits courts alimentaires en Languedoc-Roussillon, donc là, je vous restitue un travail... Il y a une chercheure, Iona Chifolo, qui est sociologue, qui travaille beaucoup sur cette question dans mon unité. Et elle m'avait demandé d'encadrer un mémoire sur la géographie des circuits courts dans la région. Et le résultat... Alors, déjà, on s'est intéressé à une catégorie. Ce sont les circuits courts fruits et légumes, et qui correspondent à des organisations collectives. Vous voyez sur ce schéma, en fait, une typologie de tous les circuits courts qui peuvent concerner un type de produit. Vente directe, vente par un seul intermédiaire, individuel, collectif, vers des marchés, vers des AMAP. Enfin, voyez, il y a toute une... Donc déjà, on a affaire à un phénomène qui est assez compliqué, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de configurations de circuits producteurs-consommateurs. Et donc, on s'est intéressé à un sous-ensemble, les démarches collectives, et pour les fruits et légumes. Donc, on a fait un inventaire régional et on a essayé de cartographier tout cela. Les cartes vont vraiment... Vous allez avoir du mal à lire. Alors, en fait, il y a une difficulté, c'est comment on représente ce phénomène en termes spatial. Et là, on avait choisi de s'intéresser au lieu de distribution, qui est le point de rencontre, en fait, entre le producteur et le consommateur. Donc, on a inventorié tous les points de la région correspondent aux lieux de distribution, inventorié une 300, je crois, on en avait inventorié en 2010, sachant qu'en 2012, cette carte, à mon avis, elle est désuète, parce que c'est des phénomènes qui sont en plein développement, en pleine recomposition, surtout. Donc, ce qu'on voit, enfin, vous pouvez peut-être difficilement voir, mais si la distribution des points, finalement, on retrouve bien à la fois les villes et les voies de communication. C'est-à-dire qu'il y a bien un phénomène lié à l'urbanisation pour les circuits courts. Par contre, on s'est amusé à regarder selon les circuits courts, en fait, à quels endroits ils étaient. Et on se rend compte que, par exemple, il y en a qui vont être plus dans l'urbain, d'autres plus dans le périurbain et d'autres plus dans le rural. Par exemple, Internet à domicile, c'est très urbain. Les AMAP, ça peut se retrouver partout, mais c'est également très urbain. Par contre, les boutiques dépôt-vente, les marchés estivaux, c'est plutôt rural, sachant que dans le Languedoc, on a un rural très touristique, par exemple. Hein. Alors, c'est intéressant parce que, du coup, on voit que circuit court et lien ville-campagne, si vous faites la carte des AMAP, vous avez une carte où on voit que les villes en fait, concentrent un peu les AMAP, mais il y en a un peu autour aussi. Si on regarde la carte des boutiques dépôt-vente, là, on a plutôt la carte des producteurs. C'est plutôt dans le rural. Donc, c'est intéressant de voir que, finalement, pour les circuits courts, selon les modes de lien, ce phénomène, on ne peut pas dire que c'est un phénomène spécialement d'agriculture urbaine ou périurbaine. Et si on prend les jardins d'insertion, eh bien... ils sont quand même proches des agglomérations. Voilà, donc en fait, le bilan de cette étude, c'est que si on regarde les circuits courts, fruits et légumes collectifs, l'agriculture urbaine et périurbaine est finalement peu présente. Et ça corrobore des travaux, je ne sais pas si dans l'Ouest vous en avez fait, mais par exemple, Michael Pouzin, on fait ça sur Midi-Pyrénées, où ils voient bien, ils ont fait une carte de la région Midi-Pyrénées, où la carte des producteurs en circuit court, ils ne sont pas dans l'urbain et dans le périurbain. Ils sont justement plutôt dans le rural, mais surtout à la limite entre le périurbain et le rural. En fait, le bon endroit aujourd'hui pour être quand on est agriculteur, c'est d'être à ce point-là. C'est d'être à la limite entre le périurbain, deuxième couronne, et le rural. On a de l'espace et on a pas mal d'opportunités de vente. Le deuxième élément, c'est que les dynamiques fortes sont fortes au contact entre le périurbain et le rural. Et ce qui est très fort, c'est le poids des dynamiques sociales et politiques, hein. Le rôle des néo-agriculteurs, bon, surtout dans le Languedoc viticole, vous voyez, où sur fruits et légumes, ben, c'est beaucoup de néo-agriculteurs qui développent cela. Le réseau Confédération Paysanne, qui s'est fortement mobilisé, en tout cas dans l'Hérault, autour de cela. Les associations agriculteurs-consommateurs, c'est connu. Et puis en termes d'accompagnement, c'est moins les organisations professionnelles agricoles que traditionnelles, que des associations comme les CIVAM, par exemple. Bien qu'on va voir que ça dépend des départements. Bon, alors pourquoi une relative absence du périurbain par rapport à ces dynamiques de circuits courts? Une première hypothèse, c'est l'hypothèse foncier. C'est le coût et la difficulté d'accès au foncier. Bon, s'installer dans le périurbain, c'est très difficile. Et la deuxième hypothèse, elle est plus territoriale, c'est que faire de l'activité en circuit court dans le périurbain, c'est très difficile. Premièrement, d'obtenir les droits de construction, une bâtie agricole, et puis d'exercer du maraîchage dans des zones entre des routes où il y a beaucoup de fréquentation, c'est loin d'être évident en termes de praticité du métier. faisabilité du métier. Et puis, on est autour de Montpellier, en tout cas, dans une région très viticole, donc avec peu de tradition. Maintenant, si on regarde l'agriculture, non, c'est pas périurbaine, du coup, là, il y a une erreur, intraurbaine, dans... Ah non, là, c'est dans l'agglomération de Montpellier, mais je vais aller assez vite. Ça, c'est des travaux qui avaient été faits à l'époque du SCOT de Montpellier, qui a été fait en 2006. Donc, c'est simplement pour rappel, parce que c'est une carte qui a été... C'est une carte qui a été faite pour le diagnostic agricole, bon, qui est intéressante parce qu'elle a montré qu'autour d'une ville viticole, finalement, il y avait malgré tout une diversité de systèmes agricoles autour, avec des dynamiques ici de terroir, d'agritourisme et de nature, là de vins de pays, d'exportation plutôt et de loisirs, à côté du maraîchage et de l'élevage et du tourisme, etc. Et finalement, quand on regarde l'agriculture périurbaine d'une ville comme Montpellier, on va trouver une forte dynamique d'arrachage viticole, et par rapport à l'attente d'urbanisation, donc des zones non productives, un vignoble qui subsiste en peau de léopard, avec des îlots d'AOC et vins de pays qui sont localement dynamiques, mais c'est des îlots dans le territoire, des occupants des espaces agricoles interstitiels vacants, comme pour des particuliers pour le cheval de loisir, la cabanisation pour le loisir aussi qui se développe, et des hobby farmers qui font un peu d'olivette par-ci par-là. On trouve aussi, et ça c'est un phénomène périurbain très développé, une agriculture opportuniste, le blé d'Urpac, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire que là c'est des agriculteurs qui sont prestataires de services pour des propriétaires qui n'exploitent plus et qui font du blé, ils font du blé à moindre coût et ils récupèrent la prime. On observe aussi une économie du fourrage pour les chevaux des particuliers, voilà. Et puis les melonnières, donc pour des raisons d'assolement, les producteurs de melons font tourner leur production et utilisent les espaces vacants. Donc finalement, une agriculture qui est quasiment pas du tout tournée vers l'alimentation locale. Si on regarde maintenant dans Montpellier même, c'est-à-dire dans la commune de Montpellier, donc ça c'est un travail qui a été fait par Pascal Chérôme, qui a fait son mémoire en 2011, et vous voyez sur la commune de Montpellier, les limites en jaune, donc c'est complètement urbanisé, mais il y a des espaces agricoles, principalement, vous voyez, près des confins, près des limites communales. Hein. On a identifié finalement 426 hectares agricoles sur 5700 hectares de la commune de Montpellier, beaucoup en périphérie. Donc 7% de la superficie communale est agricole. Et en fait, c'est quoi l'agriculture à Montpellier? C'est d'abord, la première surface, c'est du blé, le fameux blé dur, 182 hectares, vignobles, 158 hectares, des prés et des friches, il n'y en a pas beaucoup, du maraîchage, il n'en reste que 29 hectares, et des jardins collectifs, qui représentent 11 hectares, mais qui représentent en fait une activité en plein développement. Alors que les autres formes d'agriculture traditionnelle régressent, celle-ci se développe. Donc en fait, c'est qui l'agriculture à Montpellier? Des agriculteurs professionnels, viticulteurs, maraîchers, producteurs de blé, souvent en difficulté, sans repreneur ou sous pression urbaine. Bon, des citadins devenus jardiniers qui sont de plus en plus nombreux. Et sous la pression des demandes des citadins, la commune développe des programmes. Et puis la ville qui a acquis un domaine viticole pour en faire un agriparc. Donc le bilan à Montpellier, c'est qu'il y a un dualisme de l'agriculture urbaine avec le déclin de l'agriculture professionnelle traditionnelle, un dynamisme des jardins pour répondre à une demande des citadins, et puis on voit que l'agriculture est devenue, en tout cas une partie de cette agriculture est devenue un objet d'action publique avec le programme de jardins collectifs en fort développement, la création de l'agriparc, avec toute une publicité, la campagne à la ville, on va emmener les enfants voir la vigne, etc. Et puis la patrimonialisation de certains domaines viticoles qui vont être classés en zone agricole alors que les autres zones sont en zone en ZAD, donc d'urbanisation future. Bon, voilà, donc l'agriculture alimentaire via les jardins, bon, et encore. Mais dans le fond, une autre idée qui naît de ce travail sur l'intra-urbain, c'est cultiver en ville, n'est-ce pas cultiver la ville? Parce que derrière ces attentes des urbains sur les jardins et l'agriparc, c'est aussi avoir une certaine autre relation à la nature. Mais plus qu'une relation à la nature, c'est une relation au travail aussi, au travail de la terre, mais aussi aux faits techniques, à la question de... Et donc, ce qu'on est en train d'étudier maintenant, C'est ce que j'appelle l'expérience agricole des citadins, parce que se mettent en place aussi des systèmes de R&D agricole en ville. Alors pas du tout avec là les acteurs traditionnels de l'appareil de développement, mais il y a des conseillers permaculture qui sont des bénévoles, mais qui font des petits groupes techniques, etc. Donc il y a une sorte de petit développement technique autour d'une micro-agriculture d'appoint. Perpignan, ça va être intéressant parce que vous allez voir un autre cas, c'est dans la même région, mais avec une agriculture complètement différente. Et ma collègue Colline Perrin, en fait, a commencé à travailler sur cette ville. Et je vais vous présenter rapidement ses premiers travaux. Donc, vous voyez ici l'agglomération de Perpignan, c'est les limites rouges et la commune, la limite bleue. Au passage, vous voyez la différence des deux périmètres et ça explique bien pourquoi l'agriculture devient une question dans la gestion des villes. C'est que vous voyez que dans la partie agglomération, la plus grande partie de l'espace n'est pas urbain, en fait. Et donc, les responsables de l'agglomération doivent gérer des zones agricoles, forestières, etc. Quand on regarde les superficies agricoles de l'agglo, les deux premières surfaces, c'est 1 vigne, 2 friches. 7000 hectares de vigne, 7000 hectares de friches. C'est quand même impressionnant. Ensuite, c'est le fruits et légumes. Donc ici, on est vraiment dans un bassin de production fruits et légumes. C'est très différent de Montpellier. Alors, Colline, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait tout un travail de diagnostic, d'inventaire de toutes les initiatives qui ont trait à l'agriculture, l'alimentation dans cette ville de Perpignan. Alors, je ne vais pas le détailler, mais sur ce tableau, en fait, elle a distribué, vous voyez, l'ensemble, chaque carré est une initiative, selon l'échelle, donc de l'îlot, du niveau de base, quartier, commune, agglomération, département, et le long de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire foncier, production, transformation, distribution, vente au détail, consommation. Le but, c'était de voir justement qu'est-ce qui se fait dans les domaines purement de la production ou bien jusqu'à l'alimentation. Et donc, vous avez une distribution de toute une collection d'initiatives. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde finalement la partie plus alimentation, on voit qu'il y a un certain nombre d'actions, que ces actions, elles proviennent à la fois d'agriculteurs, d'acteurs associatifs, d'acteurs. Alors ici, la chambre d'agriculture, en fait, qui au niveau départemental a des actions, bienvenue à la ferme, les marchés producteurs, c'est connu. Et puis, acteurs publics. Alors ce qui est très intéressant dans ce cas, c'est que l'acteur public qui agit ici, c'est la commune, la ville, et l'acteur public qui agit ici, c'est l'agglomération. Et derrière ça, qu'est-ce qu'il y a en fait ? Bon, il doit y avoir des jeux politiques, tout ce qu'on veut, mais il y a aussi des compétences territoriales. Et en fait, ce qu'on découvre avec ce tableau, c'est que sur les questions purement alimentaires, par exemple les questions par rapport aux écoles, à école et alimentation, des choses comme ça, finalement, c'est la commune qui est compétente et qui agit, alors que l'agglomération qui a plus des moyens d'agir sur la politique agricole, en fait, a des actions assez déconnectées de l'aspect alimentaire. Donc une des conclusions, c'est cela, c'est qu'il y a, un florilège d'initiatives, mais peu de connexion, peu de synergie, à la fois parce que les acteurs sont multiples, mais aussi parce que les compétences sont séparées et ne s'appliquent pas aux mêmes espaces. Alors, simplement, elle a ciblé trois lieux de mise en cohérence possible qui sont intéressants pour voir ce qui se passe à Perpignan. D'abord, les jardins de Saint-Jacques. Donc, ça a été repéré comme un endroit ou faire une sorte de zone agricole complètement connectée à la ville avec des actions collectives, une sorte de territoire agricole de la ville. Ils avaient appelé ça pôle d'excellence de l'agriculture périurbaine avec une étude d'Ernst & Young qui a été faite en 2008, qui a coûté très cher, etc. Sur 400 hectares, 20 exploitations, et le résultat, eh bien, il n'y en a pas eu. Enfin, il n'y a pas eu trop de suite. Et finalement, quand on regarde ce qui s'est passé depuis, ça a été une occasion manquée, il n'y a pas eu d'action collective. Par contre, des actions individuelles, donc de producteurs hein, qui vendent leurs produits, mais aussi de gens qui proposent des locations de jardins potagers sur Internet, des choses comme ça. Donc finalement, le fameux pôle d'excellence est assez peu dynamique. Ensuite, en fait, Montpellier, c'est un hub du commerce international des fruits et légumes entre le Maroc, l'Espagne et l'Europe du Nord. La France et l'Europe du Nord. Et donc, en fait, il y a un marché de gros international avec un fort tonnage d'import-export. Et l'agglomération a voulu là, créer une plateforme de produits régionaux pour structurer un peu l'offre locale des producteurs avec les grossistes locaux, des transformateurs et un marché de producteurs pour professionnels avec les jardins, une association qui s'appelle les Jardins de Perpignan et amener un soutien financier de type éco-développement avec des panneaux photovoltaïques sur le marché régional. Et le dernier lieu, c'est les marchés de producteurs qui, vous voyez, à l'échelle là, du département des Pyrénées-Orientales, sont très développés. Donc, fêtes de producteurs, marchés hebdomadaires, marchés de producteurs, etc. Donc, on voit un troisième domaine d'intervention sur l'alimentation, ici, à l'échelle du département. Donc, le bilan des études de cas, j'arrive à ma conclusion. Partout, on voit une myriade de micro-initiatives peu connectées entre elles, avec des acteurs aux visées différentes, des compétences territoriales séparées, pas de gouvernance alimentaire en tant que telle, beaucoup de projets bloqués ou ajournés. Et ce qui est intéressant pour revenir sur la diversité des systèmes alimentaires dont je vous ai parlé dans la prospective, c'est que si on regarde Montpellier, finalement, qu'est-ce qu'on a comme système alimentaire ? On a un qui domine, c'est la qualité différenciée plutôt viticole, on retrouve l'AOC, et puis ce système alimentaire domestique qui se développe avec les jardins. Le système de proximité autour des circuits courts, finalement, il est plutôt rural que périurbain ou urbain. Par contre, dans le cas de Perpignan, où le système agricole dominant sont les fruits et légumes, finalement, ce qu'on voit très bien, c'est le système agro-industriel avec le hub international du marché Saint-Charles. Le système vivrier territorial avec cette plateforme régionale des producteurs pour organiser l'offre, le regroupement de l'offre et la transformation. Et un système agricole de proximité avec ce réseau des marchés de producteurs au niveau du département. Donc on voit que finalement les systèmes opérants actuellement autour de ces deux villes ne sont pas de même nature et ne sont pas portés par les mêmes acteurs aux mêmes échelles. Voilà, d'où l'idée de développer des comparaisons entre villes à relier avec des travaux aussi sur l'évaluation des flux alimentaires entrant sortant. Donc ça c'est des programmes multi-équipes qui vont se développer à Montpellier sur ces comparaisons entre villes. J'arrive à la synthèse. Finalement, qu'est-ce que ces réflexions sur l'agriculture urbaine et périurbaine apportent par rapport à la question de l'agriculture, du fait agricole ? Pour moi, il y a trois domaines d'intérêt. Le premier, c'est la question de la terre agricole. Et la terre agricole, finalement, quel va être son statut dans nos sociétés de plus en plus urbanisées ? C'est un potentiel productif, c'est une réserve foncière, c'est une nature, enfin nature ou faible artificialisation. Et ce que je trouve intéressant dans la question alimentaire, c'est que ça réhabilite la production en la reliant à la notion de patrimoine nourricier. Avant la question alimentaire, l'agriculture était vue quand même par le monde urbain comme un paysage, un cadre de vie, éventuellement intéressant pour l'environnement. La question alimentaire, ça repose la question de la production, et donc de l'acte de production, et donc de l'activité agricole. Donc là, je pose la question, est-ce que l'agriculture urbaine n'est pas un point d'entrée intéressant pour les analystes de l'agriculture, pour regarder ce qui se passe dans la transformation de statut de la terre agricole. Par exemple, on a une thèse qui vient d'être soutenue sur la question de la publicisation des espaces agricoles périurbains, sujet que connaît bien Yvon, la thèse de Camille Clément qu'elle a soutenue en décembre 2012. La deuxième question, c'est l'agriculteur. Qui est-ce qui cultive en ville ? En fait, il n'y a pas que des agriculteurs professionnels, il y a des citadins. Et là, je ne vous ai pas présenté les travaux en Afrique, où finalement, la plupart des cultivateurs sont des urbains. Qui cultive en ville ? Pour la ville et comment ? Donc, entre le professionnel, le citadin amateur, l'acteur public agricole, parce que les collectivités publiques font de la politique et de l'action agricole, finalement, la question alimentaire soulève des sujets nouveaux, celle de l'expérience agricole des citadins, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais aussi celle de l'agriculteur, quelque part urbain, c'est-à-dire qui est producteur de biens et services en relation avec des acteurs de la ville. Et puis, la troisième piste sur laquelle on travaille, en particulier dans le projet DOME, c'est le développement territorial durable, c'est-à-dire est-ce qu'on peut imaginer ou aller vers des systèmes agri-urbains durables, c'est-à-dire essayer de penser ensemble le fait urbain, le fait agricole et le territoire qui les unit via l'alimentation. Est-ce que c'est une utopie? Est-ce que c'est une piste possible? En tout cas, la question alimentaire suggère de nouveaux concepts pour avancer. Donc là, j'ai repris surtout des termes anglais parce que finalement, c'est plutôt eux qui ont avancé là-dessus, sur les paysages mangeables, edible landscape, les villes fertiles, donc ça, c'est pas mal développé par Joël Salomon-Cavin en Suisse, Hungry City, les aires nourricières, Urban Foodshed. Donc, sont-ils opératoires? On en est tout au début et donc, c'est des pistes de réflexion pour l'avenir. Je termine parce qu'il fallait donner 5 références pour votre séminaire. Alors, pour les 5 références... J'ai eu l'idée, donc, la première, c'est la prospective d'Ualine dont je vous ai parlé. Donc, ça a été publié dans un livre qui s'appelle « Pour une alimentation durable » aux éditions Quae en 2011. Le deuxième, ça a été, vous connaissez bien, c'est la revue Norrois avec Christine Margetic et Elodie Valette. On a en fait coordonné un numéro sur « Innovation et agriculture urbaine durable ». Et au passage, la photo de cette revue, c'est un lait frais bio. C'est à Nantes, en fait, des petites cabanes où les gens peuvent venir prendre leur bouteille de lait bio. Et ce qui est intéressant, c'est que cette cabane, elle est sur les parkings des Carrefour. Donc, vous voyez que les modèles alimentaires, en fait, c'est aussi dans leur combinaison. On profite de l'attractivité du parking Carrefour pour développer un petit circuit local autour du lait bio. Alors, je vous ai mis aussi, parce qu'il y a une pléthore d'articles, mais je vous ai mis l'article de Lovell là, sur l'agriculture urbaine aux États-Unis, parce que je trouve que c'est un des meilleurs papiers pour décrire cette diversité de réalités que recouvre l'agriculture urbaine. Et puis, je vous ai mis, alors c'est pas directement en lien avec le sujet, mais c'est un livre qui vient d'être publié en 2012 et qui... reflète pas mal la pensée de l'unité que je dirige, l'UMR Innovation à Montpellier, sur un point général sur où en est-on dans l'innovation agricole au niveau international. Et donc ce livre s'appelle « Apprendre à innover dans un monde incertain, quel futur pour l'agriculture et l'alimentation ?» Et pour terminer, bon, vous avez évoqué le projet ANR Dôme, durabilité des agricultures urbaines en Méditerranée. Je n'ai pas eu le temps de le présenter. C'est un projet sur 5 pays de la Méditerranée qui est en cours. Mais je vous signale le site web parce que le site est donc géré par Colline et elle en fait un lieu d'actualisation des travaux, des événements sur l'agriculture urbaine et donc vous pouvez aller le voir aussi pour ces informations. Voilà, merci.